Alors, Pierre-Yves, la saga, on peut l'appeler ainsi, de l'entreprise L'été David's Tea se poursuit. Cette fois, cette saga oppose l'actuel président et le chef de direction de David's Tea, Joel Silver, et celui qui est un des cofondateurs, Herschel Segal.
Celui qui avait apporté l'argent, en fait, via son fonds de placement. C'est comme le cœur a ses raisons, mais version feuilleton, donc... Le thé a son infusion, disons. Dans le fond, tu as le président actuel qui, lui, sait très bien que s'il y a un renversement de conseil d'administration, il va être mis de côté. Et d'un autre côté, tu as un actionnaire qui était là dès les tout débuts qui dit « Moi, je veux changer la réalité de cette entreprise-là. » Mais c'est le modèle d'affaires. Tu sais, en fait, semaine, Paul, je suis allé à l'épicerie. Et je me suis mis devant la devanture de thé. Et ce qui est différent avec David's Tea, c'est qu'à l'épicerie, on traite ça comme un bien de consommation régulière. Les frais fixes sont faibles. Parce que c'est un produit distribué comme les autres. Je donne un exemple. Unilever a une division qui s'appelle, une marque qui s'appelle Pure Leaf, qui font des thés glacés, mais qui font aussi du thé en feuilles ou du thé qu'on peut vendre, donc qui est de type haut de gamme, entre guillemets, pour le consommateur. Et on s'est offert à l'épicerie, on a un réseau de distribution. Donc, on ne paie pas le pied carré de la même façon qu'une entreprise qui ne vend que du thé, qui met ça du très haut de gamme, qui paie des beaux commerciaux, qui a des coûts fixes importants et dont l'unique produit est principalement du thé détaillant, bon, dans ces commerces. Donc, c'est un peu comme les commerces d'huile d'olive. Hein. Quand on veut élever au niveau supérieur un produit, il faut que le consommateur voit une forte différenciation, quelque chose de vraiment grand pour payer deux fois le prix. Et c'est là que David Stee dit « Non, on va aller là maintenant vers les épiceries. » Mais c'est un peu comme Starbucks. Starbucks, c'est en épicerie. On peut acheter le café en épicerie. Ça n'enlève pas la valeur du café qui, lui, est infusé à la tasse, mais c'est difficile de justifier au consommateur la valeur du thé et l'action a perdu 44% là, depuis un an.
Oui, ben oui, c'est ça, c'est sûr. Mais tu parlais de Starbucks. Starbucks offre de légers repas aussi. Donc, tu peux faire deux choses l'une. Aller consommer du café Starbucks, manger, faire un peu d'Internet. Tandis que le thé, il faut que tu fasses un déplacement supplémentaire pour aller le chercher, le thé raffiné là, de David's Tea.
Et l'autre point, Paul, c'est que c'est une infusion. On va t'infuser ça dans ta tasse, mais tu te dis, mon Dieu, contrairement à la machine à 5, 6 000, 10 000 $ du barista, il n'y a pas de valeur ajoutée à l'infuser en magasin. T'sais, faites-moi un café latte à la maison. Il ne sera jamais aussi bon que les cafetières qui sont en magasin parce que c'est pas le même genre de cafetière, pas le même genre qu'on peut se payer. Donc, pas cafetière, mais tu comprends l'infusion à la tasse.
Ouais,
donc,
ouais.
Mais le thé, ce que j'infuse mon David's Tea à la maison, ou à 4$ le pot, ça vient au même.
Alors, là, on parle de très grosses transactions. Le groupe japonais Sony qui a annoncé aujourd'hui un accord pour acquérir EMI.
Oui.
EMI qui a déjà été, évidemment, le label, comme disent les Français, le label des Beatles.
Le label est là de plusieurs autres. Hein. C'est beaucoup de titres, PayPal. Pourquoi Sony s'en va là-dedans? On était déjà un peu là-dedans, mais on va chercher une part majoritaire. Quand on va voir les états financiers de Sony et qu'on fouille un peu, on se rend compte que le secteur le plus payant, c'est Game and Network Services. Après ça, en deuxième, c'est la musique. En troisième, c'est le Pictures, donc les films. Et finalement, Home Entertainment and Sound. Donc, en gros, Sony n'est plus ton radio réveil, n'est plus ta chaîne stéréo. Sony est ton fournisseur de services et de contenu. Et c'est là le futur. Et Sony a bien fait son virage. On a compris que la valeur était là. Un peu comme les entreprises qui s'en vont dans le contenu et qui délaissent le hardware, donc le matériel, parce qu'on se rend compte que le consommateur veut payer pas pour une marque, mais pour le contenu, le bon contenu. Donc, si Sony possède le bon contenu, on va avoir la chaîne de distribution par la suite. Mais si on n'a pas le bon contenu, ben, on est en grande concurrence contre les autres sur le matériel.
Manifestation contre la gentrification des quartiers, c'est l'éternel débat.
Oui, il y en a eu deux récemment, un près de chez moi, une autre. Et on dit, écoutez, on est contre la gentrification des quartiers. Laissez faire vos commerces un peu à la mode. Laissez faire vos améliorations. Laissez faire votre marché immobilier. On veut garder nos loyers bas. Évidemment, il y a tout un débat là-dedans parce que qu'est-ce qui cause la gentrification? C'est que tout le monde se fait tasser de quartier. Les écarts de revenus sont grands. Il y a des écarts d'heures de travail et d'actifs financiers. Par exemple, quelqu'un qui se dit « Moi, je vais travailler 30 heures par semaine » ou « Je peux travailler 30 heures par semaine », il est en concurrence contre la personne qui est à 40 heures. La personne célibataire se bat contre les personnes qui partagent un revenu, donc un couple, par exemple. Après ça, tu as toute la question de hausse de taxes municipales, hausse de coûts de construction, hausse des tarifs, hausse des assurances. Tout ça fait en sorte qu'un quartier coûte plus cher et qu'au-delà de la gentrification et de l'offre et de la demande générée par les gens qui veulent habiter ce quartier-là, c'est une question de coût. Et évidemment, la conséquence, c'est de tasser des gens. L'autre question, c'est, oui, mais on peut mettre des coops et des logements sociaux. Vrai. Mais après ça, on crée la frustration dans l'hommerie. Hein? Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Si ton voisin paie une fraction du prix que tu payes pour avoir la même qualité d'environnement, ça peut te choquer comme personne et te dire, moi, je veux pas payer pour ça. Donc, c'est un débat vraiment complexe, la multitude des types de personnes dans un quartier et la diversité qui crée aussi de la main-d'œuvre pour le quartier. Parce que si tu veux aller chercher ton café, ça prend quelqu'un de travailler là. Si tu veux que la personne soit riche qui te sert ton café va te coûter plus cher. Donc, c'est un équilibre difficile à maintenir et il y a des manifestations contre ça.
Merci, Pierre-Yves. À demain.
Salut.